Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, émission spéciale aujourd'hui sur l'avortement. Nous allons retrouver dans quelques instants l'abbé Laurent Sprit qui va nous faire nous offrir ce temps pour cette émission. Il est aussi l'auteur de ce livre « Se relever après un avortement ». Moi non plus, je ne te condamne pas. Aux éditions Peuple Libre, abbé Laurent Sprit, bonjour.
Bonjour madame.
Bienvenue sur nos ondes. Vous avez déjà fait plusieurs émissions. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas déjà ?
Oui, en quelques mots, je suis prêtre catholique du diocèse de Lyon, ordonné depuis 20 ans, prêtre. Et depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai la grâce de pouvoir accompagner des femmes ayant connu un ou plusieurs avortements. Donc, merci de me donner la parole aujourd'hui sur ce sujet absolument explosif de l'avortement. Mon but, c'est surtout de parler de l'accompagnement des femmes ayant connu un avortement, mais peut-être qu'il faut quand même d'abord rappeler un certain nombre de fondamentaux et puis parler un petit peu de l'actualité, parce que ce sujet est extrêmement actuel et explosif actuellement. Vous voulez bien ?
Bien sûr, nous vous écoutons.
Merci. Donc, je crois que, tout d'abord, ce sujet est un sujet fondamental parce qu'il touche à quelque chose de fondamental qui est la vie du corps, la vie de l'âme, la vie éternelle. Donc forcément, c'est absolument fondamental. Et pour un chrétien, le modèle, c'est toujours le Seigneur, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Dieu fait homme pour notre salut. Et donc, il faut toujours regarder comment Jésus fait. Saint Charles de Foucault se demandait souvent « Que ferait Jésus à ma place ?» Donc quand on est prêtre, quand on est laïque, baptisé, on doit toujours se demander « Que ferait Jésus à ma place ?» Comment il accueillerait cette femme qui a avorté ? Comment il se positionnerait face à telle ou telle question, face à l'avortement ? Et donc on peut le savoir en lisant l'Évangile, en méditant l'Évangile, parce que là, on voit vraiment le Seigneur parler, agir. Et donc, plus on médite l'Évangile, plus on connaît le Seigneur, plus on essaie de l'imiter et de grandir dans la sainteté en étant conforme au Christ de Jésus. Or, Jésus, avec le mal et sans concession, il dénonce ce qui est mal, il dit les choses clairement, objectivement, mais aussi, on le voit, le Seigneur est infiniment miséricordieux avec les personnes. Et donc le Seigneur est capable de faire la distinction entre le péché et le pécheur. Donc quel que soit notre péché, donc notre mal volontaire, ce que nous faisons de manière consciente et volontaire et qui est mal, voler, mentir, tuer l'innocent, c'est mal. Et donc objectivement, il faut être capable de dire, voilà, tuer un innocent c'est mal, voler quelque chose qui ne m'appartient pas c'est mal, mentir à quelqu'un qui a le droit à la vérité, c'est mal. Et en même temps, être capable d'accueillir le pécheur, quel qu'il soit. Je suis pécheur, tous les auditeurs et auditrices qui m'entendent sont pécheurs, parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous capables de faire le mal consciemment et volontairement. Et heureusement, le Seigneur nous accueille dans sa miséricorde. Si nous lui demandons pardon, en vérité, si nous avons la contrition de nos péchés et que nous demandons pardon, eh bien nous recevons ce pardon, soit dans le baptême, si on n'est pas baptisé, on est lavé de nos péchés personnels et du péché originel aussi. Et si on est déjà baptisé, eh bien dans le sacrement de pénitence et de réconciliation, on reçoit la miséricorde de Dieu et le Seigneur nous relève, nous pardonne, nous sanctifie, nous remet sur le chemin de la vie éternelle ou nous fait avancer davantage sur le chemin de la vie éternelle si on était encore sur ce chemin. Donc ça, c'est absolument fondamental. J'appuie beaucoup sur ce début d'intervention, sur ce thème, parce que l'Église, face à l'avortement, l'Église catholique et romaine, a cette position. C'est-à-dire que si on lit les textes de l'Église, elle condamne fermement, très fermement, l'avortement. Le Concile Vatican II parle de crimes abominables. Le pape François a des mots encore plus durs contre l'avortement objectivement. L'avortement, c'est une catastrophe objective. Et puis l'Église a aussi le même discours que le Christ Jésus dans l'Évangile par rapport aux pécheurs, bien sûr, parce que elle est l'instrument de salut donné par Jésus pour nous sauver ici-bas, ici et maintenant. Et donc, je crois que malheureusement, l'Église est victime d'une image extrêmement partiale et partielle de la part des médias, de la part du monde, qui gît au pouvoir du mauvais, nous dit Saint Jean dans ce premier épître. Donc, l'Église, pour le commun des mortels, si on fait un sondage dans la rue, va être taxée d'intolérance, de méchanceté. L'Église est intolérable, quoi, sur la question d'avortement. Elle est méchante, elle condamne les personnes, etc. Alors que non, pas du tout. Elle condamne l'avortement, c'est clair. Un prêtre qui ne condamne pas l'avortement, il a un problème. Un évêque qui ne condamne pas l'avortement, il a un problème. Un laïc baptisé qui ne condamne pas l'avortement, il a un problème. En revanche, on peut dire aussi un prêtre qui condamne la personne qui a avorté en tant qu'elle a avorté ou qu'elle a fait un autre péché, il a un problème, etc. C'est-à-dire qu'il faut tenir les deux, et je crois que ça c'est absolument, absolument fondamental. L'Église n'est pas contre les femmes qui ont avorté. L'Église est pour les femmes qui ont avorté. Elle est au service des femmes qui ont avorté, comme elle est au service des femmes qui n'ont pas avorté. Voilà. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de rejet, pas du tout. Et donc, s'il y a des femmes qui m'entendent et qui ont avorté, eh bien qu'elles ne se sentent pas du tout jugées, condamnées par l'Église, mais au contraire accueillies par l'Église. C'est pour ça que le titre du livre que j'ai effectivement écrit en 2020 avec 7 femmes ayant avorté, qui sont devenues des amies pour moi, que je connais très bien, elles ont accepté de mettre leur propre témoignage personnel dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle donc « Se relever après un avortement, moi non plus je ne te condamne pas ». Vous voyez le sous-titre « Moi non plus je ne te condamne pas » qui vient de l'Évangile, l'épisode entre Jésus et la femme adultère. Eh bien, vous voyez, c'est le péché d'adultère. Jésus est capable de dire l'adultère c'est mal, objectivement. Et puis toi, femme qui a péché, je vois ton cœur, je vois ta contrition, ton regret. Je vois ta volonté de changer, eh bien, va, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Voilà. C'est l'attitude que le Seigneur a envers nous, quel que soit notre péché, que ce soit l'adultère, la fornication, le vol, le mensonge, l'avortement, tout ce que vous voulez, les péchés contre Dieu directement. Voilà. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, sauf le péché contre l'Esprit Saint, nous dit Jésus, c'est-à-dire le refus de la miséricorde de Dieu. Celui qui ne veut pas demander pardon, eh bien, il se condamne lui-même. Voilà. Par contre, quel que soit le péché qu'on a fait, si on se tourne vers Dieu avec un cœur contrit, eh bien, on peut être pardonné. Je prends par exemple le bon larron sur la croix. On l'appelle le bon larron, mais enfin, c'est un mauvais larron, c'est un mauvais voleur. Il a dû tuer pour être condamné à mort. Et il a la bonne idée, avant de mourir, de se tourner vers Jésus et de demander la miséricorde de Dieu et de la recevoir. Et le Seigneur lui garantit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc, c'est fondamental que les femmes qui ont avorté ne considèrent pas qu'elles sont rejetées par l'Église, que l'Église ne les aime pas et que c'est foutu. Ça, c'est un point absolument fondamental. Ça, c'était pour mon introduction. Donc, je voudrais parler un petit peu de l'actualité sans trop m'apesantir dessus, mais c'est important. Et puis ensuite, plus parler justement aux femmes qui ont connu un ou plusieurs avortements. C'est l'essentiel de ma démarche. Donc, actuellement, vraiment, l'actualité est tournée vers la question de l'avortement aussi, puisque aux États-Unis, la Cour suprême a renversé les arrêts Roe contre Wade. Et donc, désormais, ce sont les États, les États-Unis, donc les différents États qui sont libres de limiter ou non l'avortement. C'est-à-dire que l'arrêt Roe contre Wade ne permettait pas aux États de se déterminer sur la question de l'avortement. Là, en fait, c'est une victoire de la démocratie objective, puisque les États ont à nouveau la possibilité de se déterminer démocratiquement sur la question de l'avortement. Donc, ça a déclenché une véritable hystérie mondiale, et en particulier en France, où des personnes veulent inscrire le droit, entre guillemets, prétendu à l'avortement dans la Constitution de la Ve République. Donc, on voit bien que c'est vraiment une question brûlante, comme je disais, un sujet explosif aujourd'hui. Ça montre aussi qu'il n'y a pas de fatalité, hein, que les mauvaises lois, les lois injustes, peuvent tomber et finissent même par tomber. Et ça, c'est, je crois, une très bonne nouvelle. Il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, et encore en France, aujourd'hui, on se dit, ben voilà, la loi Veil, 1974, elle est votée, maintenant on ne peut pas revenir en arrière. Ben si, on peut revenir en arrière, bien sûr. Et heureusement, c'est-à-dire que quand une loi est mauvaise, eh bien, il faut pouvoir l'abroger tôt ou tard. Et tôt, c'est mieux que tard. Donc là, on arrive sur un petit sujet de problème de droit, vous voyez. C'est un petit peu compliqué ce que je vais dire, mais je pense que c'est tout à fait compréhensible. Il y a deux visions du droit. Il y a la vision positiviste qui considère que la loi, à partir du moment où elle est votée, dit ce qui est bien. Parce que c'est la loi, parce que c'est commandé par la loi, c'est bien. Alors, la vision positiviste du droit, c'est très mauvais parce que ça peut nous entraîner à des choses terribles. Par exemple, Adolf Hitler avait été élu démocratiquement et démocratiquement a fait voter le plan T4. Le plan T4, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'élimination en fait des personnes improductives, donc en particulier les handicapés, mentaux, etc. Et donc il y a eu, parce que c'était la loi, c'était bon et ça devait être appliqué. Ça c'est la vision positiviste et l'Église catholique évidemment absolument contraire contre cette vision. Il y a la vision classique du droit depuis l'Antiquité, en particulier des Romains, mais pas seulement, c'est-à-dire que la loi dit ce qui est bien, dit ce qui est juste, elle garantit ce qui est juste, elle donne à chacun ce qui lui revient, ce qui lui appartient, ce qui est son vrai droit objectif. Or, je crois que, et ça paraît une évidence, mais aujourd'hui ça ne l'est pas, que le premier droit de la personne humaine, c'est le droit à la vie. En quoi quelqu'un a-t-il le droit de me retirer la vie ? Qui a le droit de me retirer la vie ? La vie est un don de Dieu, un don de mes parents, je n'ai pas de pouvoir sur la vie des autres. Et donc, chaque être humain a droit à la vie, c'est un droit premier et fondamental, et c'est juste, et la loi devrait garantir ce qui est juste et bon et bien, c'est ça le sens de la loi. Donc, si une loi était injuste aux États-Unis, il est juste que les juges de la Cour suprême se rendent compte et disent que la loi antérieure n'était pas juste, et donc l'abrogent cette loi. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour la démocratie aux États-Unis et aussi dans le monde, même si certains ne voient pas cela comme ça du tout. Deuxième aspect pour l'actualité, même si elle n'est pas drôle du tout, c'est le fait que le droit ecclésial, le droit canonique, le droit de l'Église, ce qui régit la vie de l'Église, n'est pas ou peu appliqué. Je donne deux exemples. Le canon 915 dit que les personnes excommuniées, donc je vais expliquer ça dans quelques secondes, après l'infliction ou la déclaration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave, ne seront pas admis à la Sainte Communion, à la Communion Eucharistique. Donc aux États-Unis, il y a un évêque, l'évêque du lieu où réside Nancy Pelosi, qui est président de la Chambre des représentants. Cet évêque est courageux et catholique parce qu'il a rappelé à cette dame, d'abord il l'a appelée personnellement, il a écrit X fois en disant « Madame, vous êtes baptisée, vous vous dites catholique, or vous soutenez complètement l'avortement, vous êtes pour l'avortement, vous êtes pour la promotion de l'avortement, et donc il y a un problème entre votre foi et votre agir. Donc moi, en tant qu'évêque, personnellement, j'essaie de vous faire comprendre cela et puis de vous inviter à la conversion pour votre salut éternel. » Puis cette dame n'a pas voulu entendre ce que son évêque lui disait personnellement, en privé. Et donc il y a un moment où l'évêque a publié un document en disant publiquement, ben voilà, j'interdis à Nancy Pelosi de communier parce qu'elle persiste avec obstination dans un péché grave. Et elle scandalise tout le monde puisqu'elle dit qu'elle est catholique et en même temps elle promeut l'avortement. Et donc ça c'est très intéressant de la part des évêques américains puisque beaucoup sont très courageux sur la question. Malheureusement c'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Voilà. Et puis ensuite il y a cette question aussi de l'excommunication, c'est-à-dire que celui qui procure un avortement, qui fait un avortement, si les faits s'ensuivent, si l'enfant est décédé, il encourt automatiquement l'excommunication, l'athé sentencié, c'est-à-dire qu'automatiquement l'Église sort entre guillemets un carton rouge et le met en dehors du terrain de l'Église, terrain de foot, au revoir, tu as fait quelque chose de très grave, tu le sais, tu tu l'as fait, ben, tu es en dehors du terrain. Et l'attest stantié, ça veut dire c'est automatique. À partir du moment où tu le fais, on n'a pas besoin même de le dire, tu l'es, tu es excommunié. Et donc, tu ne peux pas communier la sainte communion eucharistique, tu ne peux pas recevoir le corps du Christ, réellement présent dans l'Eucharistie, parce que tu persévères dans quelque chose de très grave, tu as fait un délit, un péché très grave, et tu le savais, et donc tu as plus de 16 ans, tu le savais, il n'y a pas de circonstances atténuantes, donc tu es excommunié. Donc vous voyez, le droit ecclésial existe, malheureusement il est peu appliqué et peu connu, c'est pour ça que je suis content de pouvoir le redire aujourd'hui pour les auditeurs et auditrices. L'Église ne transige pas, vous voyez, objectivement avec le mal. En revanche, deuxième partie, elle accueille toujours le pécheur que vous êtes, que je suis. Heureusement pour nous, le Seigneur est miséricordieux et l'Église est notre mère et elle veut notre salut et donc elle accueille les pécheurs que nous sommes. Voilà, donc j'arrive à la deuxième partie de ce que je voulais vous dire et transmettre, qui me paraît le plus important, justement, c'est l'accueil des personnes ayant connu un ou plusieurs avortements. Donc, face à l'avortement, il y a finalement deux temps. Il y a avant l'avortement et après l'avortement. Personnellement, je vais me présenter plus sur le après, parce que c'est mon ministère qui est là. Il y a évidemment un avant, et l'avant est très important. Je vous rappelle qu'il y a plus de 220 000 avortements depuis plusieurs années, ces dernières années en France, donc c'est pas rien du tout, c'est en 5 ans ça fait plus d'un million d'enfants qui sont morts par avortement. Parce que je rappelle que dès la fécondation, il y a un ADN humain, ça c'est scientifique. Donc on peut pas dire scientifiquement que après la fécondation, il n'y a pas d'être humain. C'est nier le fait que avorter, c'est tuer un être humain, ou supprimer la vie d'un être humain, c'est non scientifique. Donc j'affirme, évidemment, avec la science d'aujourd'hui que nous connaissons, qu'il y a un ADN humain dès la fécondation, donc c'est un être humain, et donc cet être humain doit être protégé, sa vie doit être protégée, son droit à la vie doit être protégé, et avorter, c'est détruire cet être humain. Voilà, c'est interrompre de manière définitive sa vie, et il n'y aura pas de reprise. Voilà. Alors, le problème, donc, c'est avant, c'est d'aider les femmes enceintes, dans des situations extrêmement complexes, qui sont tentées par l'avortement, à qui quelquefois on propose que l'avortement, c'est ces femmes-là, d'abord, qu'il faut aider au niveau de l'État, au niveau individuel. Donc, moi, je supplie les auditeurs et auditrices de toujours aider les hommes qui sont papas d'enfants et qui, ces enfants étant en danger d'avortement, et les femmes, surtout, enceintes, qui sont complètement désorientées, perdues. Et peut-être qu'en ce moment, il y a des femmes enceintes qui sont tentées par l'avortement. Il faut qu'elles trouvent auprès des catholiques une aide pour qu'elles puissent mener à terme cette grossesse, être aidées financièrement, humainement, à mener à terme cette grossesse. Donc il y a les aides individuelles, ça c'est ce que chaque catholique peut faire. Il y a l'aide d'État, et entre les deux, il y a toujours le vote catholique, c'est-à-dire que si les catholiques ont un vote qui va dans le sens de la vie, eh bien il y aura des lois pour la vie qui favoriseront des aides aux femmes enceintes en difficulté, et donc ça ira beaucoup mieux, il y aura moins d'avortements. Ça c'est constructif, oui. Au niveau de l'Église catholique, on a un certain nombre de maisons d'accueil, je pense aux maisons de Marthe et Marie, mais il y a d'autres maisons d'accueil pour les femmes enceintes qui sont en difficulté. Donc, plus on aura de maisons Marthe et Marie dans les diocèses, plus les femmes enceintes en difficulté seront aidées pour pouvoir mener à bien jusqu'au bout, à terme, leur grossesse et donner la vie. Il y a aussi, évidemment, l'accouchement sous X, qui est très peu connu, où je sais bien que c'est extrêmement compliqué, on ne peut pas forcer une femme à accoucher sous X, mais on peut au moins lui proposer, lui dire tu ne peux pas, tu ne penses pas avoir la force pour mener jusqu'au bout cette grossesse, tu ne vois pas d'autre issue que l'avortement, mais en fait il y en a quand même un autre, c'est de donner la vie à cet enfant, et il y a bien des couples en France qui voudraient adopter et qui ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas d'enfant adopté, puisque la plupart des enfants qui sont dans ce genre de situation, bien sûr, sont avortés. Donc, je crois que c'est bien aussi, évidemment, de, même si c'est vraiment une grande souffrance, évidemment, pour des femmes qui ont accouché sous X, mais c'est aussi un cadeau, évidemment, qu'elles font à leur enfant, de lui laisser la vie, son droit, lui laisser ce droit qu'il a à la vie, et de lui donner la vie, et de, en plus de faire, je veux dire, la charité à des couples stériles en attente d'enfants, de pouvoir adopter des enfants. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'aide très importante qu'on doit apporter aux femmes avant l'avortement, pour éviter l'avortement, mais il y a évidemment l'aide après l'avortement, une fois que les femmes, malheureusement, ont fait ce, je vais dire ce choix, mais c'est, souvent c'est pas un choix, c'est-à-dire par défaut, elles n'ont pas vu comment elles pouvaient faire autrement, et donc voilà, elles ont avorté, et là, il faut s'occuper d'elles. C'est ce que je fais depuis plus de 10 ans, avec la grâce de Dieu, et vraiment, je rends grâce à Dieu, au Seigneur, pour ce don qu'il me fait d'accompagner ces femmes, de très nombreuses femmes. Alors, là, maintenant, je passe à ces femmes-là. Il y a une culpabilité terrible, hein, qui est dans leur cœur, et qui souvent, en partie, n'est pas juste, parce que après le drame de l'avortement, le traumatisme qu'elles vivent, eh bien, elles ont souvent une espèce d'explosion interne, psychologique en particulier, et elles sont complètement perdues, elles n'ont pas le recul pour analyser ce qui s'est passé. Et donc, il est très important de les écouter, de les accueillir, de les écouter, surtout qu'il n'y a pas d'écoute ailleurs. Hein. On leur dit, écoute, c'était ton droit, c'est remboursé par la Sécu, je ne vois pas pourquoi c'est toi qui as choisi, donc circuler, il n'y a rien à voir. Non, il faut évidemment accueillir ces femmes-là, les écouter, comme Jésus le fait dans l'Évangile. Évidemment, quel que soit le péché, le Seigneur nous accueille et nous écoute. Et il faut, je crois, multiplier des lieux d'église, ecclésiaux, d'écoute, d'accueil des femmes ayant avorté. Moi-même, bientôt, à Lyon, je vais créer un lieu officiel d'écoute, des temps officiels d'écoute avec le diocèse de Lyon, de femmes ayant avorté. J'aimerais que, en fait, ça se généralise un peu partout en France, dans tous les diocèses. Il faudrait une antenne d'écoute ecclésiale, un lieu d'église. On montre bien que l'Église catholique ne rejette pas, mais au contraire accueille les femmes qui ont avorté et les écoute, et puis les aide justement à prendre du recul pour discerner. Et alors, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques secondes, elles sont totalement perdues, écrasées par ce qui vient de se passer. Souvent, elles regrettent très vite le geste qu'elles ont fait, ou elles rentrent dans le déni pour se protéger aussi, et elles explosent que plusieurs années après, ça je connais aussi. Mais je crois que je vois, évidemment, celles que je vois, elles explosent tout de suite. Parce que c'est une telle souffrance pour elles, de soit d'avoir vu ce qui s'est passé, si c'était un avortement médicamenteux, soit simplement de l'avoir vécu, si c'était un avortement chirurgical. En tout cas, c'est un traumatisme immense, une souffrance effroyable, que comme prêtre et comme homme, je ne peux pas mesurer, mais je constate simplement extérieurement. C'est terrible, donc il faut les aider en les écoutant à discerner qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, à qui la faute réelle, qui t'a poussé, est-ce qu'on t'a proposé autre chose, est-ce qu'il y avait une alternative, il n'y en avait pas, qui en fait est vraiment responsable, qui est vraiment responsable. Je n'ai jamais vu une femme ayant avorté me dire au fond je n'ai aucune responsabilité. À chaque fois, des femmes me disent « Mais non, en fait, j'ai quand même une responsabilité, j'ai signé, j'ai pris les comprimés, j'aurais pu dire non, j'aurais pu fuir, etc. » Chacune dit un peu ce qu'elle ressent personnellement, mais à chaque fois, elles reconnaissent qu'il y a une petite part au moins qui leur revient. C'est pas à moi d'en juger, il y a le Seigneur seul qui juge. Hein, mais en tout cas, il faut les aider à voir les choses comme elles sont réellement, objectivement, et pas simplement cette espèce de traumatisme généralisé qui fait qu'elles sont totalement perdues. Ouais. Donc vraiment, il faut écouter, vraiment, il faut discerner pour voir la vérité et les choses comme elles sont. Et quand on dit la vérité, eh bien, elle rend libre. C'est ce que dit le Seigneur, hein. La vérité rend libre. Et ça, c'est magnifique, de voir une femme... arriver avec le temps à dire les choses comme elles sont, à voir les choses comme elles ont été, et pouvoir se relever. Il faut aider donc les femmes à se relever. Si on est médecin et qu'il y a un problème physique, on aide les femmes à se relever physiquement. Si on est psychologue, psychiatre, on aide les femmes à se relever autant que possible psychologiquement, même si je crois que psychologiquement, une femme ne se relève jamais de l'avortement et qu'elle apprend simplement à vivre avec la souffrance liée à l'avortement. Mais comme il y a une unité de la personne, lorsque, en particulier spirituellement, la personne reçoit la miséricorde de Dieu, que Dieu vraiment pardonne à travers le baptême ou le sacrement de pénitence pour les personnes baptisées, quand Dieu dit « Je te pardonne tous tes péchés, quels qu'ils soient », et en particulier l'avortement, vraiment la personne est libérée spirituellement et même en partie psychologiquement, puisque le Seigneur la relève cette personne. D'où le sous-titre hein, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Voilà, le Seigneur nous dit cela dans le tribunal de la miséricorde, dans la confession, quand on est baptisé, ou dans le baptême, quand on ne l'est pas encore, il nous lave de nos péchés. Il nous lave de nos péchés, il n'y a plus de péché. C'est terminé. L'enfant, il est toujours détruit, mais la personne, elle, qui a avorté, ou même qui a fait un avortement, au sens du médecin, par exemple, qui a prescrit, ou le chirurgien qui a fait l'avortement, eh bien, le Seigneur lui pardonne son péché, il n'y a plus de péché dans son âme, il y a les conséquences, mais pas le péché lui-même. Donc ça, c'est quand même merveilleux, et c'est ce chemin qu'il faut absolument que l'Église propose. Moi, je le dis encore dans tous les diocèses, il serait bon qu'il y ait un lieu ecclésial d'écoute, d'accueil, de discernement pour les personnes ayant avorté, pour les femmes ayant avorté, afin qu'elles puissent se relever par la miséricorde de Dieu, soit à travers le baptême, soit à travers le sacrement de pénitence. En conclusion, puisqu'il me reste une petite minute avant de laisser la parole aux auditeurs, et répondre aux questions éventuelles des auditeurs, et je veux répondre à toutes les questions sans aucune exception. Et je voudrais faire deux choses. Premièrement, donner mes coordonnées directement à l'antenne, et vous pourrez les redispatcher ensuite aux personnes qui les demanderaient après cette émission ou pour une réécoute de l'émission. C'est des femmes qui ont avorté et qui veulent me contacter puissent le faire. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 14 18 07 61. 06 14 18 07 61. 06 14 18 07 61. Et mon adresse mail, c'est abe, tout attaché, spriet, abesprit, tout attaché, @gmail.com. @gmail.com. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est lire un petit passage de l'épître aux Éphésiens de saint Paul qui nous rappelle que ce combat pour la vie n'est pas un combat contre les personnes, combien même ce sont des personnes qui sont pour l'avortement et qui font tout pour que l'avortement soit non seulement légalisé, mais de plus en plus favorisé. Saint Paul nous dit, attention, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des personnes humaines, mais contre le démon. Le démon qui est le diable, qui est homicide depuis le commencement, et donc qui a la haine de la nature humaine, de la personne humaine. Saint Ignace de Loyola, dans l'exercice spirituel, dit le démon, c'est l'ennemi de la nature humaine. Et donc, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Moi, je n'ai pas d'ennemi contre des personnes de ce monde, contre les idées de ces personnes, oui, contre ces personnes, non. Je vous rappelle, hier, quand nous fêtions Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Paul a été persécuteur de chrétiens, et il est devenu apôtre. Donc, même le pire des ennemis peut devenir un ami. Aux États-Unis, Abby Johnson, qui était responsable d'un avortoir et qui était très bien vu par le planning familial aux États-Unis, s'est convertie et aujourd'hui, elle défend la vie. Une des deux, je ne sais plus si c'est Mme Wade ou Mme Roe, aux États-Unis, a changé d'avis et maintenant elle est pro-vie. Voilà, donc notre combat n'est pas contre les personnes, mais contre le démon. Alors, je vous relis ce passage et puis après je laisse la parole aux auditeurs. Donc Éphésiens chapitre 6. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon, etc. Voilà, c'est l'essentiel. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole et maintenant, je voudrais la donner aux auditeurs pour pouvoir répondre à leurs éventuelles questions.
Abbé Laurence Pritt, nous avons Martine qui souhaiterait intervenir pendant cette émission. Bonjour Martine.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mon père, monsieur l'abbé.
Oui,
voilà, je vous appelle parce que moi-même, j'ai avorté il y a quelques années.
Oui.
Et je voudrais dire en fait à toutes ces femmes déjà qu'elles se pardonnent parce que bien souvent, c'est vraiment le pardon qui est essentiel parce qu'en fait, on a comme un voile quand on fait cet acte. C'est comme si on ne voyait pas que c'est un bébé qu'on porte, mais c'est rien en fait, c'est pas la vie. Et en fait, c'est mon cas, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, quand le Seigneur nous rappelle, nous ramène pour justement guérir, c'est tellement douloureux qu'on se cache. On se dit, mais tu peux pas me pardonner parce que j'ai tué un bébé et je te demande pardon, mais je n'arrive pas et je ne peux pas me laisser me regarder par toi parce que j'ai honte, je ne me sens pas digne de que tu me pardonnes cet acte. Et en fait, le Seigneur nous conduit toujours au pardon, c'est-à-dire d'aller se confesser, de donner un prénom à l'enfant. Déjà, la relation mère-enfant, la mère accueille son enfant dans le cœur. Et j'accompagne aujourd'hui, quand je le peux, quand je rencontre une femme qui a avorté, justement, à la confession, à donner un prénom à l'enfant, à se pardonner, parce qu'en fait, c'est les clés, en fait, c'est ces clés qu'elles n'ont pas, où elles sont complètement démunies, où elles croient vraiment que rien ne pourra être comme avant. C'est sûr que c'est pas comme avant, parce qu'on a toujours cette cicatrice qui est là et qui nous le rappelle, mais en même temps, l'amour de Dieu est beaucoup plus grand, je voulais dire, que c'est la vie, quoi. Et l'amour infini de Dieu, quand il nous regarde et qu'il nous dit « je ne te condamne pas, je te relève, je t'aime » et il me prend dans les bras. Moi, je voudrais dire à ces femmes qui ont avorté, qui n'ont pas fait encore cette démarche de se pardonner, qu'elles aillent à la confession, qu'elles demandent pardon à Dieu, mais vraiment de se pardonner à elles, ou aux messieurs aussi qui ont subi ça, parce qu'on pense pas toujours au papa, où on leur impose aussi bien souvent l'avortement, ils n'ont pas leur mot à dire. Ben moi, je voudrais dire aussi au papa qu'il fasse cette démarche d'aller à la confession, et de donner un prénom à l'enfant. Pour moi, c'est tellement important parce que quand j'ai commencé à donner un prénom à mon bébé, ça a été différent. C'était mon bébé, tu as du prix à mes yeux et je te mets dans mon cœur et tu as un prénom. Et quand je te parle, je t'appelle par ton prénom de baptême que je t'ai donné, même si c'est pas le baptême avec les prêtres, mais c'est quand même un baptême. Et voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est ça, parce que bien souvent, mais ça enlève cette souffrance. C'est cette douleur que l'on ressent dans notre chair, nous les femmes qui sommes faites pour donner la vie. Et ne laissez pas le diable l'emporter, mais Dieu est plus grand que ça et que nos péchés. Voilà, je voulais dire cela parce que
merci, Martine.
C'est tellement important que voilà. Et j'aide les femmes vraiment à aller faire ces démarches et faire des sessions Mater Sabbath ou la vigne de Rachel, qui sont tellement importantes pour se relever, pour guérir. Voilà.
Merci Martine.
De rien. Une bonne journée. Au revoir.
Merci Martine. Alors nous avons maintenant Marie-Félicité. Bonjour Marie-Félicité.
Bonjour Abbé Laurent. Bonjour à tout le monde.
Bonjour Marie-Félicité.
Voilà. Moi, je voudrais intervenir par rapport à l'avortement. En fait, les femmes qui avortent, elles ne savent pas qu'elle tue toute une nation. Parce que ces enfants qui sont avortés, ils allaient être grands et faire des familles. Donc, pour moi, ils ont tué des milliers de personnes. Donc, l'avortement, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très mauvais. Voilà. Donc, il faut qu'ils pensent qu'ils tuent beaucoup de gens, qu'ils tuent beaucoup d'autres personnes derrière, beaucoup d'autres âmes à travers ses enfants.
C'est sûr.
Et
c'est du simple bon sens. Mais comme la société ment aux femmes en leur disant, oui, tu sais, ce que tu portes, c'est un amas de cellules. Voilà. C'est pas encore un enfant. c'est pas encore un être humain. Bon, alors évidemment, les femmes, le croyant, font cet acte, et puis ensuite, elles s'en rendent compte de la réalité, elles voient quelquefois, et là, c'est la catastrophe.
Voilà. C'est la catastrophe. Il faut dire la vérité. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres âmes, à travers ces âmes qui devaient avoir d'autres enfants, que Dieu devait envoyer, que Dieu allait envoyer.
Donc, aurait voulu, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Le Seigneur aime la vie, il donne la vie.
Amen.
Et c'est pas aux hommes de tuer la vie.
C'est voilà, sûr. C'est ça. Et puis, il faut beaucoup prier aussi quand une femme est en détresse. Il faut invoquer le Saint-Esprit.
Tout à fait, vous avez raison.
Voilà, parce que moi, ça m'est, ça m'est arrivé, la gloire est à Dieu, à une personne qui voulait avorter et qui m'en a parlé. J'ai prié, j'ai invoqué le Saint-Esprit et le jour de l'avortement, elle devait faire l'intervention à 8h45. Eh bien, elle s'est endormie jusqu'à 13h30. Elle est arrivée, on lui a dit, on ne peut plus vous prendre, madame. Et cet enfant est né, elle a 12 ans maintenant. Et c'est une très belle petite fille. Voilà. Donc, il faut toujours prier, voilà, il faut prier. Et prier pour ceux que vous ne connaissez pas aussi, voilà.
C'est un combat spirituel, je l'ai dit à la fin. Notre arme est spirituelle parce que c'est un combat spirituel.
Amen.
Mais
Amen.
Comme il est incarné dans le concret, il faut aider concrètement avant les femmes et après, si malheureusement elles ont fait le choix, entre guillemets, de l'avortement.
Voilà, il faut qu'ils pensent toujours à ça, qu'il y a d'autres âmes qui devaient venir par cet enfant avorté.
Merci de Marie-Félicité.
Merci beaucoup. Bonne journée, Abbé Laurent. Oui, au revoir.
Merci, Marie-Félicité. Alors, je vais lire maintenant un SMS que nous avons reçu. Bonjour, je suis Maria et je voudrais demander si on peut baptiser un enfant avorté plusieurs années après.
On ne peut pas le baptiser puisque malheureusement il est décédé. En revanche, on peut ddire dans son cœur au Seigneur, Seigneur, j'aurais voulu qu'il soit baptisé. Et le Seigneur qui est en dehors du temps, qui est dans l'éternité, écoute notre prière et voit notre désir. Donc, face à ce désir, moi je pense que le Seigneur exauce la prière d'une femme qui regrette évidemment son avortement et qui dit au Seigneur, j'aurais voulu que cet enfant vive, j'aurais voulu qu'il soit baptisé. Je vous demande qu'il reçoive la grâce du baptême en dehors du baptême et le Seigneur le donne. On a fêté il y a quelques jours Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste est sanctifié dans le ventre de sa mère au moment de la visitation par la présence de la Sainte Vierge et de Jésus qui est dans le sein de sa maman, la Vierge Marie, et Saint-Jean-Baptiste qui est dans le ventre de Sainte Élisabeth tressaille de joie et la prophétie de l'archange Gabriel se réalise. La prophétie dite à Zacharie, Jean est sanctifié dans le ventre de sa mère. Il y a aussi le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament qui est sanctifié dans le ventre de sa mère. Donc, il faut espérer qu'il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. Et en tout cas, même après coup, évidemment, la prière d'une mère pour son enfant a évidemment un prix immense auprès de Dieu.
Alors, nous avons reçu un autre SMS. Bonjour, merci beaucoup, Père, pour tout ce que vous avez dit. Soyez bénis. Et c'est Antoine qui nous envoie ce message. Alors,
que ce soit un homme aussi qui réagisse positivement, parce que quelquefois, on oublie, comme le disait Marie-Félicité, les hommes qui ont souffert d'un avortement qui leur a été imposé par leur compagne ou épouse, mais surtout compagne. Parce que souvent, il faudrait chercher des chiffres entre le lien, si vous voulez, entre le non-mariage, le fait d'avoir des enfants hors mariage et l'avortement. Je ne dis pas que tous les avortements ont lieu hors mariage, mais je pense qu'une très grande majorité des avortements ont lieu hors mariage parce que, précisément, les femmes qui sont enceintes hors mariage n'ont pas les moyens de faire vivre cet enfant. Et donc, c'est la panique totale. Donc, on rejoint d'ailleurs ce que l'Église enseigne en disant que ne sont légitimes que les relations sexuelles à l'intérieur du mariage, évidemment, précisément parce que à l'intérieur du mariage, on a plus de chances de pouvoir accueillir la vie, et en dehors du mariage, à travers la fornication, eh bien on n'est pas capable d'accueillir la vie, et la vie n'est pas la bienvenue, et donc on la supprime puisque elle n'est pas la bienvenue.
Merci en tout cas pour ce très beau temps que vous avez offert à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Voilà, c'est des paroles d'espérance peut-être pour et que c'est très très important chacun, que ce soit vraiment une mission pour chacun de prier pour toutes ces femmes afin que cet avortement en cesse.
Exactement. Ce qui est qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques jours peut se passer aussi en France. C'est pour ça que ceux qui sont pour l'avortement s'agitent fortement, parce qu'ils ont peur que le droit et la vérité éclatent aussi en France. Et donc certains essaient de bétonner un prétendu droit constitutionnel à l'avortement. Il n'y a pas de droit à supprimer la vie des innocents.
Alors, un nouveau SMS vous demande de nouveau vos coordonnées. Est-ce que vous pourriez rappeler vos coordonnées aux auditeurs qui n'auraient pas pu les noter?
Bien sûr. Donc, mon numéro de téléphone, 06 14 18 07 61. 06 14 18 07 61. Mon adresse mail, c'est abade, tout attaché, spriet@gmail.com. Merci.
Merci
infiniment.
Beaucoup pour ce temps offert à nos auditeurs. Nous restons en union de prière.
Merci, madame. Au revoir, madame.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était une émission sur l'avortement. Vous venez d'entendre l'abbé Laurent Sprit qui vous a offert cette émission. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.